Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Israël, la crise d'identité. C'est votre grande table des idées avec le journaliste Piotr Smolar, auteur de Mauvais Juifs aux éditions de l'Équateur. Dans ce livre témoignage, il raconte ses années de correspondant du Monde à Jérusalem, les tensions identitaires, la montée de l'intolérance, en redonnant voix à son père militant et à son grand-père résistant, juif polonais. Il y explique pourquoi, de par son histoire familiale, sa réflexion politique, il refuse ses logiques d'assignation identitaire. Alors que les élections législatives se tiennent ce mardi en Israël, avec un duel annoncé entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, seront-elles le reflet de ces divisions? Bonjour à vous, Piotr Smolar.
Bonjour.
Un livre un peu touchy, on imagine, comme on dit, délicat à écrire. Vous prenez garde d'ailleurs aux mots que vous employez. Ces précautions langagières que vous expliquez aussi par les abus de langage qui sont commis aujourd'hui, notamment en Israël, où vous avez été. Alors pour commencer, quand vous avez été nommé correspondant en Israël, pays où votre grand-père avait fini par émigrer, qu'est-ce que vous avez ressenti? La fierté du retour?
Ni fierté ni retour.
En retour, la fierté d'aller dans ce pays à la rencontre aussi peut-être.
Non, une très grande curiosité. C'est une très grande curiosité parce que je ne connaissais pas Israël. Je m'y étais rendu qu'une fois avec mes parents il y a très très longtemps, à l'époque de la première intifada. J'avais 13-14 ans. Nous avions rendu visite à mon grand-père qui avait émigré en Israël au début des années 70. Donc je ne connaissais pas du tout ce pays. J'avais été extrêmement impressionné comme adolescent par Jérusalem et par sa dimension spirituelle, religieuse, que j'avais même trouvé un tout petit peu écrasante. J'étais un petit peu encore impressionnable à cette époque-là. Mais Israël n'a jamais été mon pays, bien que mon grand-père ait trouvé refuge. Et il y est décédé, il y est enterré aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon pays. Moi, je suis né en France, je suis français et je ne ressens pas de double appartenance, même si j'ai évidemment par le sort, le destin de mes parents qui ont choisi l'exil de Pologne, j'ai aussi des racines extrêmement mêlées, puisque j'ai parlé polonais à la maison avec mes parents depuis mon enfance. Et je connais bien la Pologne, mais Israël n'est pas ma patrie.
Vous n'aviez pas appris l'hébreu, par exemple?
Jamais, non. J'ai toujours parlé polonais à la maison, mais l'hébreu n'a jamais été pratiqué par aucun d'entre nous, ni le yiddish d'ailleurs, puisque mon grand-père, lui, connaissait très très bien l'yiddish. Il dirigeait d'ailleurs un journal en yiddish, et c'était vraiment sa langue de cœur, et la langue qu'il cherchait à promouvoir au travers de ses engagements publics. Ses engagements qui étaient vraiment sous le sceau du communisme le plus fervent.
Alors je vais reformuler, parce que vous voyez, je dis que vous faites attention à vos mots dans ce livre et c'est moi qui brouille mon message en utilisant peut-être les mauvais mots. Quand vous allez là-bas, pour des raisons professionnelles, puisque vous êtes nommé correspondant du Monde en Israël, est-ce que c'est aussi quelque chose de vous-même que vous allez chercher? Ou est-ce que c'est arrivé bien plus tard, peut-être en repartant 5 ans après, quand vous quittez le pays? Et c'est cette réflexion-là qui est le fruit de ce livre. Ou ce livre, le fruit de cette réflexion?
Alors, je pourrais vous faire une réponse un petit peu par fainéantise qui consisterait à dire non, bien sûr que non, j'étais avant tout mû par un intérêt professionnel. Israël est un pays absolument fascinant, ce qu'il est, et je voulais aussi découvrir avec un regard neuf le conflit israélo-palestinien. Voilà, je pourrais faire cette réponse, mais qui serait à moitié mensongère. Il est évident qu'il y avait aussi une curiosité intellectuelle, émotionnelle, qui consistait à confronter mon expérience, ma trajectoire, ma vie, et puis mon identité qui est très marquée par la culture française et par la culture républicaine française, la confronter avec ce pays, Israël, qui a été le refuge des Juifs après la Shoah. Et je ne cherchais pas à y trouver une familiarité, je cherchais au contraire à y trouver les particularités locales, pour essayer de mieux comprendre ce pays que je ne connaissais que de très loin par des lectures, que ça soit des lectures de livres ou par la lecture de la presse. Et donc voilà, ça allait au-delà de l'intérêt professionnel. Il y avait aussi un intérêt personnel, émotionnel, même si j'avais vraiment le sentiment, l'intuition extrêmement, extrêmement forte, encore une fois, qu'il s'agissait d'un pays pour moi étranger à tous les sens du terme.
Et vous n'y alliez pas pour éprouver le juif que vous étiez. Ça, c'est venu petit à petit, avec les rencontres, avec la vie que vous avez passée là-bas, avec cette identité qu'on vous a en permanence renvoyée. C'est de là que cette ce questionnement sur votre identité juive, cette part de votre identité est née ?
En fait, mes racines juives n'ont jamais été une facette active de mon identité. Ça n'a jamais été une facette dissimulée, sauf pendant mon séjour en Israël, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a travaillé en profondeur ou que j'ai revendiqué. En revanche, ce qui a été pour moi un peu un élément déclencheur dans la marche vers ce livre, parce que c'est vraiment, ce livre vient de très loin. C'est-à-dire que il ne correspond pas juste à mon séjour en Israël. J'ai eu envie de rendre justice en quelque sorte à mon grand-père et à sa trajectoire assez hors norme, à l'époque où j'ai lu son livre, puisque lui-même a écrit un livre sur les ghettos de Minsk. Et je l'ai découvert que très très tardivement, alors qu'il était déjà décédé, en anglais. Il avait été originellement écrit en yiddish. Et je l'ai découvert au cours de mon séjour de 4 ans en Russie, entre 97 et 2001. C'est à cette époque que j'ai lu son livre et j'ai été retourné par ce livre. D'abord écrit de façon assez remarquable, de façon très tranchante, au laser, ou plutôt à l'os, dans lesquels mon grand-père racontait comment il avait organisé le réseau de résistance à l'intérieur du ghetto de Minsk, dans lequel il s'était retrouvé à l'été 41 et jusqu'à la liquidation du ghetto en 43. Et grâce à son action et à celle d'autres résistants dans le ghetto, ils avaient réussi à faire sortir des milliers de juifs du ghetto et à leur permettre de rejoindre les forêts biélorusses où les partisans étaient à l'œuvre contre les nazis. Donc le premier désir à l'origine de ce livre, c'est vraiment celui-là, de raconter l'histoire aussi du ghetto de Minsk et de rendre justice à ce grand-père. Donc évidemment que l'identité juive était un des sujets de fond sur lesquels, d'une certaine façon, je voulais me pencher. Mais ce n'était pas ma vie que je voulais mettre en exergue, c'était plutôt celle de mon grand-père. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au cours de ce séjour comme correspondant en Israël, j'ai ressenti une sorte d'effet miroir assez bouleversant entre ce que devient Israël, son raidissement identitaire, qui s'est accéléré ces dernières années, et puis les autres façons d'être juif. Les façons d'être juif qui correspondent davantage à celles de la diaspora ou des diasporas, à celles qu'avait mon grand-père et celles qu'a eu mon père aussi. Puisque autant la passion de mon grand-père, la passion de sa vie, ce qui a structuré son engagement, c'était le communisme. Dans le cas de mon père, c'était au contraire, c'était l'engagement pour la démocratisation de la Pologne, pour laquelle il a aussi payé un prix élevé, puisqu'il a été en prison après les répressions de mars 68, ces répressions qui, au final, l'ont conduit aussi à devoir quitter son pays, à quitter la Pologne et à émigrer en France où je suis né. Et donc, c'est dans cet entrechoquement que ce livre a vraiment pris sa source. Et qui présente une forme, je pense, assez originale et peut-être inhabituelle pour certains lecteurs, parce que c'est à la fois un voyage géographique et un voyage dans l'histoire. C'est un tissage d'histoire très personnelle, familiale, et puis aussi une évocation de la grande histoire. La grande histoire, c'est-à-dire bien sûr ghetto de Minsk, l'histoire de la Pologne et des Juifs en Pologne après la Seconde Guerre, et puis Israël aujourd'hui, que devient ce pays ? Quelle est sa transformation, sa mue, et qui était, c'est aussi évidemment une question au cœur de ce livre.
Et il y a beaucoup question donc aussi de transmission, hein, de cette transmission qui a eu lieu et de celle qui n'a pas eu lieu entre ces trois générations. Quand vous quittez Israël, est-ce que ce sera avec presque un peu d'amertume ou un certain soulagement?
Non, ni l'un ni l'autre, avec la satisfaction d'avoir beaucoup appris, d'avoir rencontré des gens passionnants des deux côtés, du côté palestinien et du côté israélien, de repartir moins ignorant, de m'être alimenté sur le plan spirituel et intellectuel. Donc c'est plutôt un sentiment de reconnaissance, à la fois envers les gens que j'ai rencontrés, et les vies que j'ai pu raconter, et puis évidemment, sans patriotisme d'entreprise, en reconnaissance aussi à mon journal de m'avoir permis de connaître cette expérience.
Alors dans ce livre, et vos parents vous le reprocheront un peu, hein, que vous mettez de côté certains éléments, des éléments qui seraient peut-être positifs sur la vie du pays aujourd'hui. Mais vous soulignez et reconnaissez que l'occupation est devenue la matrice d'Israël, l'occupation des Palestiniens, des territoires palestiniens. Vous soulignez les injustice. Vous dénoncez aussi l'emprise du fondamentalisme religieux aujourd'hui sur la politique du pays, cette ethnicisation de la politique. Qui aurait imaginé qu'à 3 jours des élections d'avril 2019, Benyamin Netanyahou revendiquerait le projet d'une annexion graduelle de toutes les colonies, écrivez-vous, Piotr Smolar. Ce qui était marginal, excentrique, inaudible il y a 10 ans ou 20 ans, a été poli, normalisé, banalisé. C'est un pays qui a énormément changé.
Énormément. On constate une accélération de l'histoire ces dernières années. Même si, évidemment, il faut toujours être prudent sur un point. Il y a parfois un décalage entre le côté absolument incendiaire du débat public et puis la réalité de la vie quotidienne. Il ne faut pas sous-estimer ce décalage. Mais ce qui s'est passé ces dernières années est assez effrayant. Or, les premières élections que j'ai couvertes en Israël, c'est mars 2015, qui a donné naissance à la coalition la plus à droite de l'histoire d'Israël. Le jour de l'élection, fin mars 2015, Benjamin Netanyahou apparaît sur une vidéo diffusée sur YouTube et mettant en garde la population, je dis bien le jour de l'élection, alors que les Israéliens se rendent dans les urnes. Et il met en alerte les électeurs de droite en disant « Attention, les électeurs arabes se déplacent par bus entier vers les urnes, aux armes. » Enfin, pas aux armes, mais au vote. Mobilisation générale. Donc, cette vidéo avait fait à l'époque scandale. Il s'en était presque excusé dans les semaines qui avaient suivi. Mais aujourd'hui, cette vidéo, c'est rien du tout par rapport à l'ambiance de la campagne que nous venons de vivre en Israël. Les incitations, le degré de violence et même de racisme à l'encontre des électeurs israéliens, arabes, a été phénoménal dans cette campagne. Il y a la plume la plus célèbre, l'analyste politique le plus célèbre du quotidien Haaretz, a écrit ce matin encore, il s'appelle Yossi Werther, il a écrit qu'il s'agissait de la campagne la plus raciste et la plus violente que l'on ait jamais vue de la part d'un parti au pouvoir. Benjamin Netanyahou, via notamment sa page Facebook, a envoyé comme message aux électeurs israéliens que les électeurs arabes, enfin il a dit les arabes, cherchaient à annihiler Israël, cherchaient à détruire Israël et cherchaient à encourager l'armement nucléaire de l'Iran. On est vraiment dans un moment où la vérité meurt à chaque minute dans une campagne électorale. On pourrait résumer ça de façon très simple, c'est que pour Benjamin Netanyahou, une élection, ça se gagne, peu importe le prix.
D'où l'importance des mots, ceux que vous choisissez et que vous avez choisi pour écrire cet ouvrage, Mauvais Juif, Piotr Smolar, d'où l'importance des mots, parce que abus et violence des discours il y a aujourd'hui en Israël. On va écouter les mots du professeur, de l'historien, professeur à Sciences Po, Jean-Pierre Filu, auteur notamment de Main basse sur Israël, où il revient sur la personnalité et les discours de Benjamin Netanyahou, parlant de cette nature opportuniste ou prévisible des discours de Benjamin Netanyahou.
Alors c'est étonnant parce que mes amis israéliens me trouvaient un peu complaisant à l'écart de Netanyahou parce que je le créditais d'une vision. Les résultats d'hier soir et de cette nuit prouvent que cette vision fonctionne. L'inscription d'un 5e mandat est tout à fait inédite. Cela veut dire que Netanyahou sait parler à ses compatriotes, sait construire une offre politique qui va recueillir la majorité au Parlement et qu'effectivement il crée non seulement des faits accomplis par rapport aux Arabes et aux Palestiniens, mais aussi par rapport à la société israélienne. Il a fait passer en juillet dernier, donc année très symbolique, année du 70e anniversaire de l'État d'Israël, une loi à valeur constitutionnelle, loi sur Israël comme État-nation du peuple juif. C'est son titre. Et donc c'est une loi qui ouvrirait la voie à des discriminations entre juifs et arabes à l'intérieur de l'État d'Israël, alors que Ben Gourion, dans sa déclaration d'indépendance en 1948, avait proclamé l'égalité des droits entre les citoyens israéliens de toutes origines. Donc effectivement, une refondation.
Netanyahou n'est pas un opportuniste qui fait des alliances stratégiques, c'est un idéologue. Vous êtes d'accord avec cette thèse de Jean-Pierre Filu?
Je pense qu'il y a de la vérité dans les deux aspects. Et c'est ça qui rend Benjamin Netanyahou absolument fascinant comme personnage politique. D'une part, il y a un socle de conviction que je résumerai en un mot, le pessimisme. Et ce pessimisme, il a hérité de son père, Benzion Netanyahou, qui était un très grand intellectuel de la droite nationaliste israélienne. Ce pessimisme, c'est un pessimisme historique qui concerne les Arabes, terme générique dans lequel ils font les Palestiniens. Et ce pessimisme consiste à dire quoi ? Que la paix, en fait, avec les Palestiniens est impossible. Et que par conséquent, il faut s'organiser pour, du point de vue sécuritaire, garder les Palestiniens sous contrôle et sur le plan politique pour empêcher Israël de faire des concessions qu'il ferait passer de l'état de fort à l'état de faible. Il ne faut pas mettre en danger la sécurité d'Israël. Ça, c'est la phrase fondamentale. Ce pessimisme historique, il est vraiment ancré en Benjamin Netanyahu. On fait souvent référence à son discours de 2009, qui s'appelle le discours de Bar-Ilan, prononcé à l'université de Bar-Ilan, dans lequel il s'était prononcé en faveur d'une solution à deux États. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est ce qu'il y avait d'autre dans ce discours, et qui était un certain nombre de conditions assez fermes, assez précises, émises pour éventuellement accepter l'émergence d'un État palestinien. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu s'est engagé bien, bien plus loin sur la voie de l'unilatéralisme. Il s'est évidemment réjoui de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale par les États-Unis. Mais maintenant, il prône même l'annexion ouverte. Il prône l'annexion de certaines colonies, que ça soit près de Hébron, la colonie de Kiryat Arba, ou dans la vallée du Jourdain. Encore une fois, de façon complètement unilatérale. Il n'est plus question de discuter, de trouver une solution négociée. Il est question, de façon unilatérale, d'avancer pour transformer l'état juridique des territoires occupés. Pour passer de l'ambiguïté de l'occupation, qui devait être un régime temporaire, c'était prévu comme ça, si j'ose dire, après la victoire écrasante de 1967, pour passer à quelque chose de définitif, sans retour possible, et donc sans solution à deux États, qui serait l'annexion. Ça, c'est vraiment très inquiétant. Donc ça, c'est vraiment pour la partie socle de conviction. Et puis, il y a l'autre partie sur laquelle, je pense, il y a moins besoin de s'étendre, qui est son exceptionnel opportunisme et même cynisme, le fait qu'il est prêt à tout pour conserver le pouvoir. Il faut bien se rappeler qu'il est dans une situation politique extrêmement sensible, extrêmement délicate, puisqu'il a la menace au-dessus de sa tête d'une inculpation d'ici la fin de l'année dans plusieurs affaires de corruption, et que donc il risque à terme, alors il y a énormément de recours sur ce chemin-là, mais il risque à terme la prison. Il veut se maintenir au pouvoir, il veut obtenir une forme d'immunité de la part de la droite pour pouvoir échapper à ses poursuites. Donc cette motivation le pousse à transformer le champ électoral, le champ politique en véritable terre brûlée. Et à transformer aussi cette élection en référendum et en saturant les ondes de provocations, de mensonges, pour tout faire tourner autour de sa personne. Et malheureusement d'empêcher les vrais débats, la vraie discussion, une discussion fondamentale sur l'avenir d'Israël, qui est un très jeune État dont les frontières ne sont pas encore clairement définies.
La politique de la terre brûlée, provocation, radicalisation, on l'entend. Est-ce que cette loi de 2018, qu'évoque Jean-Pierre Filu à l'instant, et qui consacre Israël comme un État-nation juif, est-ce qu'elle vous paraît révélatrice de ce tournant qui est pris depuis quelques années en Israël, de cette métamorphose ?
Bien sûr, et c'était un moment très politique très important. Il faut vous rappeler qu'il y avait eu dans le passé déjà des tentatives pour rédiger un tel texte avec peu de succès, que c'était une des raisons pour laquelle d'ailleurs la Knesset avait été dissoute à la fin de l'année 2014 et qu'il y avait eu des élections anticipées. Puisqu'à l'époque, deux ministres de poids avaient démissionné du gouvernement, notamment à cause de ça, donc Tzipi Livni et Yair Lapid. Ce texte, selon beaucoup constitutionnalistes, de spécialistes du droit, on va dire, parce qu'il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des lois fondamentales, mais selon beaucoup de spécialistes du droit en Israël, ce texte était inutile. Au-delà du dégât que ce texte fait dans les rapports entre les différents groupes en Israël, les groupes sociaux, ce texte était inutile parce qu'il est communément admis qu'Israël est l'État des Juifs. Personne ne conteste ça, sauf les personnes extrémistes et dérangées qui voudraient empêcher l'État d'Israël d'exister. Mais sinon, il est communément admis que c'était l'État d'Israël. Il était complètement inutile pour la droite d'en faire un texte stigmatisant pour la minorité arabe, par exemple en dégradant la valeur de la langue arabe dans l'enseignement.
La minorité druze, d'ailleurs. Aujourd'hui, l'hébreu est la langue officielle. Donc pourquoi en avoir fait un marqueur ?
Parce qu'encore une fois, ça s'inscrit dans l'ethnicisation de la politique et dans la polarisation du débat public. C'est-à-dire que ce que la droite a essayé d'organiser avec Benjamin Netanyahu à sa tête, c'est un affrontement entre nous, entre guillemets, les patriotes, nous qui défendons Israël, nous qui nous préoccupons de la sécurité d'Israël, et en face, eux, la gauche, les faibles, les naïfs, les ONG financées par les Européens et d'autres puissances étrangères, la minorité arabe qui, elle aussi, cherche à déstabiliser l'État et à nier son caractère juif. Vous voyez, ça crée des conditions impossibles d'entente et de dialogue.
Mais on a l'impression que ce clivage gauche-droite auquel on était habitué jusqu'ici, il est presque plus pertinent, que la recomposition politique est telle aujourd'hui qu'il faut faire avec toutes ces nouvelles tribus, pour reprendre le mot du président Reuven Rivlin en 2015, avec tous ces nouveaux électorats, un électorat extrêmement fragmenté, et on le voit à travers les différentes personnalités des candidats. Comment vous les définiriez-vous aujourd'hui, puis à ce moment-là, ces nouveaux clivages en cours en Israël?
Oui, vous avez mentionné Reuven Rivlin, qui est issu pourtant de la droite, qui est issu du Likoud, figure traditionnelle, intellectuelle, brillante. Reuven Rivlin a tenu, pour moi, le discours politique le plus important qu'on ait entendu en Israël depuis des années et des années. Ce discours, il l'a tenu en 2015, lors d'une conférence. Et ce discours portait sur les tribus d'Israël. Il expliquait quoi, Reuven Rivlin? Qu'en gros, il n'y avait plus de majorité en Israël. Qu'à l'origine, la majorité, c'était, en gros, les juifs ashkénazes laïcs, et plutôt de gauche. Et Reuven Rivlin explique qu'aujourd'hui, il y a des tribus à peu près de taille similaire qui se côtoient. Il y a l'immigration russe, il y a la minorité arabe, il y a les ultra-orthodoxes et le camp national religieux. Et que le problème, c'est la colle. Comment on les fait tenir ensemble? Quel est le lien civique? Quel horizon ont-ils en commun, ces différentes tribus, selon le propre mot qu'il a employé? Chacune de ces tribus a ses médias, chacune de ces tribus a aussi son système scolaire, ses écoles. Chacune de ces tribus a ses références, a parfois même ses magasins. Les interactions, elles existent, mais elles sont pas si nombreuses que cela. Il y a des choses qui unissent, des liens civiques extrêmement forts et culturels extrêmement forts entre les citoyens israéliens. Il y a des rendez-vous religieux, il y a Shabbat, par exemple, il y a certaines fêtes, les cérémonies en hommage aux soldats tombés, le jour de la création d'Israël. Mais au-delà de ces fêtes et au-delà des deuils communs lorsqu'il y a des morts, la question que posait Reuven Rivlin était tout à fait fondamentale. Or, on a l'impression qu'elle ne préoccupe absolument pas les partis aujourd'hui, que les partis n'essaient pas de s'adresser à l'ensemble des citoyens.
La question de la cohésion nationale.
Exactement, en fait. La question de la cohésion nationale. Que ces partis n'essayent pas de régler cette question-là. Et ça c'est très inquiétant. Vous avez mentionné Benny Gantz comme principal, aujourd'hui, alternatif politique à Benjamin Netanyahou. Mais ce que propose Benny Gantz, c'est du Netanyahou sans Netanyahou. C'est-à-dire que c'est très difficile de trouver de véritables différences au-delà des questions de tempérament, parce que lui se refuse à la démagogie électorale, aux provocations, aux petites phrases. Mais au-delà du style, au-delà de l'homme, sur le fond de la politique, la plateforme que propose son camp, son alliance, qui s'appelle Bleu-Blanc, c'est difficile vraiment de la distinguer de celle du Likoud.
Alors on aurait pu parler de Lieberman aussi.
Lieberman qui peut être le faiseur ou le faiseur de roi dans cette élection, ou surtout le Brutus qui tuera César. Puisque Lieberman, à l'origine, était quand même un proche, un collaborateur de Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, peut-être qu'il tient le sort de Benjamin Netanyahou entre les mains, puisqu'il a prévenu que, pour la première fois, il refuserait de soutenir un gouvernement dirigé par Benjamin Netanyahou. C'est déjà lui qui, après les élections d'avril, a refusé d'entrer dans une alliance, en prenant comme raison ou comme prétexte, pour certains, la question de la conscription des ultra-orthodoxes. Puisque lui se bat depuis longtemps, comme d'autres, pour que les ultra-orthodoxes soient obligés, au même titre que les autres citoyens, d'effectuer leur service militaire.
Il dénonce le poids aussi de l'influence de ces ultra-orthodoxes sur la politique israélienne aujourd'hui.
Exactement, puisqu'il y a deux partis ultra-orthodoxes et qui ont été extrêmement gâtés par Benjamin Netanyahou au cours des années écoulées.
Votre voisin, qui était biophysicien, partisan de la droite religieuse plutôt, et qui vous parle des Iraniens comme étant des tordus, de la menace aussi que représentent les Palestiniens, pour qui il voterait aujourd'hui?
Bonne question. Je ne sais pas. Il voterait sans doute, soit il ferait vote utile, et il voterait pour Benjamin Netanyahou, soit il voterait sans doute pour le camp national religieux, mais j'en ai pas l'absolue certitude. Je n'ai pas l'absolue certitude. En tout cas, ce qui est certain, c'est que lui se sent, un des sentiments qui l'anime, c'est vraiment le sentiment de la nécessité absolue de défendre l'identité juive et la transmission de l'identité juive. C'est vraiment pour lui un élément absolument essentiel. Et pour lui, la laïcité est une dissolution. Pour lui, la mixité aussi peut être une forme de dissolution de cette identité. Et il est focalisé là-dessus, au-delà des questions de personnes et de responsables politiques.
Invité de cette grande table des idées, Piotr Smolar, ex-correspondant du Monde en Israël, auteur de Mauvais Juifs aux éditions des Équateurs.
France Culture, la grande table, Olivia Jasbert.
Quand on parle des Juifs, j'ai souvent le sentiment qu'on ne parle pas de moi. Ce « nous » m'est étranger. Ce n'est ni une affaire de dissimulation ni de honte, mais un attachement viscéral à l'identité d'une identité, à l'idée d'une identité multiple, écrivez-vous, Piotr Smolar. Aujourd'hui, en Israël, tout se passe comme si cette identité était unique à vous lire. On l'adopte ou on la rejette. Qu'est-ce qu'être juif? Y a-t-il une seule identité juive? C'est cette réflexion que vous menez à travers votre propre histoire familiale et le regard que vous posez aujourd'hui sur ce pays. Pour comprendre, vous dressez aussi le portrait robot de 4 habitants d'Israël. Il y a un étudiant progressiste de Tel Aviv, laïque, ouvert aux montres, un harédim, un ultra-orthodoxe de Bnei Brak, à quelques kilomètres au centre de Tel Aviv, un fils d'immigré russe, arrivé en 90, qui est atteint, touché par un patriotisme profond, mais par un judaïsme superficiel, et enfin, quatrième personnalité, un colon de Izar, au sud de Naplouse, en Cisjordanie. Et vous vous demandez, qu'ont-ils tous en commun ces 4 personnages? Vous avez trouvé la réponse?
Non, je ne l'ai pas trouvé, mais je suis frappé que d'une telle diversité dans un pays d'une si petite taille, avec une population finalement assez restreinte, 9 millions d'habitants, dont je crois 6,7 millions de juifs. Et en tout cas, votre question renvoie vraiment, encore une fois, à ce discours de Reuven Rivlin, du président Rivlin. Parce que je crois vraiment qu'il a mis le doigt sur peut-être la question majeure aujourd'hui en Israël. Et je pense que c'est une question que nous, à l'étranger, lorsque nous regardons Israël, que nous sous-estimons, que nous ignorons trop, et qui est vraiment fondamentale. Au-delà des questions d'alternance, au-delà des questions d'affrontement gauche-droite, au-delà même des tensions qui peuvent exister entre Ashkenaz et Sépharad, ce qui est aussi un enjeu, cette question de la cohésion nationale est absolument fascinante.
C'est un peu cette quête qui a guidé aussi le réalisateur israélien Yoav Shamir. Il a réalisé un documentaire, Defamation, en anglais, sorti en 2009, film et tournage dans lequel il a suivi notamment une classe d'école israélienne en pèlerinage à Auschwitz. Vous devriez tous décrire les raisons qui vous poussent à faire ce voyage. Je suis de la 3e génération de survivants de la Shoah. Quand ma grand-mère parlait de la Shoah, je voyais en elle cette expression. Ne jamais oublier, ne jamais pardonner. Je voyais ce qu'elle ressentait, mais je ne le ressentais pas. C'est ce que je veux ressentir au cours de ce voyage, ce sentiment. Ne jamais oublier, ne jamais pardonner.
Les élèves ont d'autres préparatifs plus longs pour leur voyage. La conseillère de l'école est chargée de leur préparation mentale.
Essayez de comprendre la connexion entre le passé et aujourd'hui. L'antisémitisme n'est pas mort. Israël fut fondé en résultant de l'Holocauste, mais l'antisémitisme existe toujours. Il y a des incidents antisémites en Europe et dans d'autres pays. Vous, en tant que juif, la prochaine génération qui allait rejoindre l'armée, vous allez devoir faire face à cet aspect de votre vie. Les services secrets iront avec vous pour qu'il n'y ait pas de contact avec la population locale. Vous allez rencontrer des gens qui ne nous aiment pas. Vous allez voir qu'ils ne nous aiment pas. Encore aujourd'hui, ils ne nous aiment pas. Tout le monde sait que les Juifs sont détestés. Nous avons été élevés comme ça, avec la haine et l'antisémitisme. Je ne peux pas me rappeler d'un seul moment sans antisémitisme.
Voilà, que signifie être juif aujourd'hui et que signifie l'antisémitisme aujourd'hui, 2 générations après l'Holocauste? C'est aussi la question et le fil conducteur de ce film réalisé par Yoav Shamir il y a 10 ans. Piotr Smolar, est-ce que c'est ça aujourd'hui, c'est cette peur qui est en train de faire cohésion?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la droite israélienne, Benjamin Netanyahu en tête, ne dessine pas d'horizon, mais joue plutôt sur les peurs. C'est effectivement la cohésion par la peur. C'est triste parce que normalement, un rendez-vous électoral, c'est le rendez-vous d'une nation avec elle-même. C'est le moment où elle se regarde dans le miroir, où elle regarde ses différents membres et elle s'ausculte. Dans quel état suis-je et où est-ce que je vais aller? Et on n'entend pas ça dans cette campagne. Il y a une très forte lassitude, il faut dire, des Israéliens qui ont déjà voté en avril, qui s'y sont mis il y a une dizaine de jours. Donc c'est une campagne ultra électrique, ramassée, un peu épileptique, avec une polémique par heure ou par jour. Et donc il n'y a pas d'horizon effectivement qui est dessiné devant les Israéliens. Que veulent-ils faire avec les Palestiniens? Où est-ce qu'ils veulent aller? Et Gaza, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que Gaza, on se penche sur Gaza uniquement au moment où il y a des roquettes tirées par les factions palestiniennes de là-bas? Ou est-ce qu'on s'interroge plus politiquement, philosophiquement, humainement, sur le sort de cette population de 2 millions d'habitants qui vit dans cette langue de territoire en détresse, longue de 40 kilomètres.
Et vous, de votre histoire, Piotr Smolar, parce que à travers celle de votre grand-père, juif et communiste, résistant, dans le ghetto de Minsk, on a l'impression que vous retenez surtout ce caractère-là de lui, ce côté combatif et combattant, avant d'être aussi une victime. Vous, qu'est-ce que vous retirez, une victime de l'histoire, hein, qu'est-ce que vous retirez, vous, de cette histoire familiale, de leurs engagements?
Je retiens, en ce qui concerne mon grand-père et mon père, leur courage. Et je ne sais pas si j'aurais voulu, dans les mêmes circonstances, faire preuve de ce même courage. Et pour ça, je m'en sens redevable. Si je regarde dans le miroir familial, je m'incline pour ça. Ensuite, il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne pourrais jamais totalement comprendre. La passion communiste de mon grand-père est quelque chose qui m'est tellement étranger, tellement lointain, que j'observe ça pour le coup avec un œil assez froid et très professionnel, très journalistique. Dans ce livre, il y a aussi toute une part d'enquête. J'ai eu accès à des archives qui n'étaient pas connues pour essayer de comprendre son propre cheminement intellectuel et cette espèce d'étau dans laquelle il s'est retrouvé entre sa volonté de préserver la culture juive et notamment la langue yiddish et de l'autre côté son engagement pour le communisme. Et à un moment, cet étau l'a complètement écrasé et il a dû quitter Israël à cause de ça. En ce qui concerne mon père, lui, c'était vraiment un engagement pro-démocratique. Et je pense que mon père représente un engagement aussi éthique, politique, au nom d'une idée qui est la plus noble d'entre toutes et qui me guide aussi dans mon activité professionnelle. Cette idée, c'est la vérité.
Merci beaucoup à vous, Piotr Smolar. Ce sont vos trois voix que vous croisez dans cet ouvrage « Mauvais Juif » qui paraît aux éditions de l'Équateur. Merci beaucoup d'être venu nous en parler autour de cette grande table.
Merci à vous.
Un grand merci à toute l'équipe, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Henri Leblanc et Oriane Delacroix, avec l'aide précieuse de Sophie Marty et de François Bréus. Aujourd'hui, à la réalisation, c'était Éric Lancien avec Déborah Dagobert et à la vidéo, Morgane Danan. Très bel après-midi sur France Culture.